Les jardinières.
Salut tout le monde et bienvenue ce matin dans les jardinières. Et oui, on se rapproche du printemps et on accorde toujours autant d'importance à nos jardins et à nos plantes dans cette émission des jardinières. Et puis comme toujours, je ne suis pas la seule à vous retrouver ce matin. Derrière un autre micro se cache Sophie qui elle aussi attend de s'exprimer. Bonjour Sophie.
Bonjour Stéphanie, bonjour à vous qui nous écoutez. Nous sommes là aujourd'hui pour prendre soin de nos plantes et ces soins pourront se faire avec le grand savoir de notre invité jardinier Fabrice Rondet, paysagiste à Porrentruy. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Nous sommes le samedi 16 mars. Ces jours, le temps est assez capricieux. Alors comment gérer ces caprices? Comment faire en sorte que nos plantes n'en souffrent pas? Que faire pour qu'elles soient belles à l'arrivée du printemps? Toutes vos questions vont trouver réponse aujourd'hui grâce à notre professionnel Fabrice Rondet.
Des questions auxquelles il répondra en direct. Vous pouvez discuter avec lui comme si vous étiez avec nous ici en studio en composant le 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Sinon, vous pouvez toujours nous envoyer un SMS en inscrivant le mot « jardin » suivi d'un espace et de votre question. Et vous envoyez le tout au 939. Et autrement, eh bien, il y a toujours le formulaire présent sur nos sites internet sous l'onglet « émission questions aux jardinières ».
Eh bien, les dés sont lancés, les jardinières démarrent jusqu'à 8 heures.
Les jardinières, Sophie et Stéphanie.
Et on commence avec une question qui nous a été posée la semaine dernière, qui n'a pu avoir de réponse. C'est un SMS que Rolande nous avait écrit. Elle aimerait acheter de la graine de cyprès d'été, aussi appelée cochia. Où est-ce qu'elle pourrait s'en trouver, Fabrice?
Alors, c'est une plante un petit peu particulière. Déjà, il faut être sûr de la bonne plante. Mais je pense que c'est là le nom botanique. Ça devrait être juste de sa part. Parce qu'il s'agit en fait d'un... On a tendance à imaginer que d'un cyprès, d'une plante... ligneuse, mais là il s'agit d'un arbrisseau annuel, donc c'est plutôt une plante qu'il faudrait aller trouver, je pense, auprès d'un spécialiste comme un horticulteur ou peut-être qu'un magasin traditionnel pourrait faire une commande spéciale. Donc, mais je pense qu'auprès d'un horticulteur de plantes en pot, fleurs coupées, quelque chose comme ça, ou peut-être un fleuriste même, elle pourrait trouver ça assez facilement.
Et nous avons reçu cette semaine un formulaire de Sonia de Glovelier. Elle a acheté un kiwi Actinidia arguta. Elle aimerait savoir dans quel genre de terre le planter, l'emplacement idéal et s'il supporterait la présence de framboisiers à proximité.
Alors pour les framboisiers, je pense qu'il n'y a pas de contre-indication parce que c'est deux plantes qui sont au niveau maladie, parasites, pas très compliquées à vivre. Donc je pense qu'on parle toujours d'association de plantes maintenant avec beaucoup d'intérêt, mais à ce niveau-là, je n'ai rien entendu non plus. Au niveau de l'exposition, il faudrait une exposition plein soleil à mi-ombragé. Et puis au niveau des terres, par contre là, il nous faudrait plutôt une terre qui soit riche, profonde, bien engraissé. Il faudrait faire un petit peu attention peut-être aux terres trop calcaires. Donc ça serait bien de faire un amendement avec peut-être quelque chose de sableux, bien humifère pour mettre ça en place.
Et au niveau du kiwi, justement, du fruit en lui-même, est-ce que dès qu'on plante un arbre, on peut espérer avoir des fruits assez vite?
Alors il y a deux choses qu'il faut tenir compte, c'est qu'on a deux types de kiwi. On a des kiwis qui sont auto-fertiles, donc un seul plant sur certaines variétés peuvent s'auto-féconder. Et après, pour d'autres variétés, il faudrait acheter plante mâle, plante femelle. Donc ça, il faut être bien renseigné au départ. Et après, oui, c'est une plante grimpante qui pousse rapidement et qui a une production assez régulière. Si elle est bien exposée, c'est ses conditions, comme on parlait avant au niveau de la terre, de son emplacement, qui peut donner satisfaction.
Une autre question qui nous vient de Mike, du Locle. Je voudrais savoir, une fois pour toutes, si les cendres de bois contiennent de l'azote. Il pense que non, mais il n'est pas expert. Alors, est-ce qu'il est bon d'utiliser des cendres, Fabrice Rondet?
Alors, il est très, très intéressant d'utiliser des cendres. On peut l'utiliser sur plusieurs façons. On peut l'utiliser en épandage, en faisant attention au grammage. Il ne faudrait pas excéder des 70 grammes à peu près au mètre carré et par année. Ensuite, au niveau des engrais, on pourrait dissoudre dans de l'eau et après filtrer pour après l'utiliser aussi comme engrais. Donc on a des grammages, ça doit être 400 grammes qu'il faudrait utiliser. Et après, effectivement, pour l'azote, c'est pas du tout, il n'y a pas d'azote dedans. Donc ce sera riche en certains éléments comme du potassium, du magnésium, des choses comme ça. Et après en sels minéraux. Mais par contre, l'azote, non, on ne prend pas à côté dessus.
Bon, ben voilà, Mike Duloc-là, enfin sa réponse. Merci Fabrice Rondet. Vous êtes avec nous jusqu'à 8h et il y a plusieurs moyens pour vous qui nous écoutez, qui se sont levés tôt, hein, tout simplement, ce matin pour parler jardinage. Sophie, donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler ces différents moyens ?
Je peux et je vais le faire. 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute si vous souhaitez nous appeler. Donc, sinon, vous pouvez nous envoyer un SMS avec votre question. Vous écrivez le mot jardin, vous laissez un espace et vous tapez votre question. Et il y a encore le formulaire que vous trouvez sur notre site internet.
Les jardinières.
Et après cette pause musicale, on poursuit avec Sabine qui nous écrit car elle a un zamioculcas, en gros une plante verte d'intérieur depuis environ 3 ans. Il y a quelques mois, elle l'a un peu trop arrosée et par la suite, elle a remarqué des petits vers sur le terreau et l'eau stagnante. Elle avait alors changé le terreau et rincé les racines pour enlever toute la terre. Elle l'avait rempotée dans de la nouvelle terre. Tout allait bien, mais là, elle a vu, à son grand malheur, le retour de ces petits vers. Elle ne l'avait pourtant pas arrosée en trop grande quantité cette fois-ci. Alors, qu'est-ce que vous pensez que ce soit, Fabrice Rondet ?
Alors, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, ces petits vers, ils se développent quand on a des arrosages qui sont trop abondants. Pardon. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? C'est la changer le terreau, tout ça. On peut se méfier peut-être d'un terreau, peut-être d'une qualité pas très bonne, ou c'est qu'on a trop de rétention d'eau, ou c'est que ça ne draine pas assez, ou alors peut-être que le pot n'est pas percé, qui ne permet pas à l'excédent d'eau de s'évacuer. Ou alors un drainage pas suffisant dans le bas du pot pour permettre ça. La sous-coupe qu'il y a dessous pourrait être remplie d'eau, ce qui permettrait par capillarité d'avoir ce terreau toujours trop humide. Donc ça, c'est tous des facteurs qui sont peut-être à corriger dans un premier temps. Dans un deuxième temps, espacer les arrosages, arrosage en moins grande quantité, en laissant ressuyer entre deux arrosages. Et puis les choses devraient se corriger normalement assez rapidement, en tenant compte qu'un bon terreau, peut-être acheter quelque chose de meilleure qualité, ferait la différence. Après, si on a des petites mouches, ben, c'est tout simplement la larve en fait, de cette petite mouche. Donc c'est un petit peu un cercle vicieux. C'est là, ces petites mouches, qu'elle peut faire, c'est on a des plaques jaunes qu'on trouve dans le commerce, qui sont des plaques où c'est que l'insecte va se coller, qui peut permettre aussi de diminuer aussi, après, une fois que l'insecte a pris son envol, la possibilité de se reproduire.
Et puis j'avais lu quelque part, ou entendu, je ne sais plus, par rapport au fait de rincer la plante avec de l'eau, les feuilles, quand il y avait des petites mouches, des petits pucerons comme ça, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment... Qui est vraiment valable, on va dire, dans la réalité.
Alors, cette larve blanche n'est pas en relation avec le puceron. Mais effectivement, on a cette larve avec le petit moucheron, des fois, qu'on voit quand on achète un terreau. Tout d'un coup, on a un envol de petits moucherons ou un démarrage de ces petits vers-là. Effectivement, là, il faudrait mettre soit ces plaques jaunes, soit contrôler ce qu'on a fait exactement au niveau de ce rempotage ou alors de l'apport d'eau.
On va poser encore une petite question avant une autre pause musicale par rapport à la mousse. On a reçu une question de Jonas qui nous dit que son terrain est en très grande partie recouvert de mousse, justement. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment. Il n'y a pratiquement pas d'herbe. Qu'est-ce qu'il doit faire, retirer la mousse aux endroits qu'il désire faire des plantations ou alors partout ? Quelle serait la meilleure méthode pour ne plus avoir cette mousse, Fabrice ?
Alors, cette mousse, elle peut provenir parce qu'un terrain peut-être ne réussit pas bien, trop ombragé, peut-être pas assez bien nourri. Donc effectivement, les excédents de mousse, il faudrait les enlever et puis corriger la fumure. Maintenant, par rapport à ce qu'il veut planter, ben, adapter le terreau qu'on mettrait en place, si on veut mettre un terreau ou une terre. Regarder pour corriger la fumure aussi par rapport au type de plantation qu'on veut mettre en place. Ça dépendra si c'est un gazon, bien si c'est des arbustes ou si c'est des plantes annuelles. Donc après, il faut tenir compte de ces éléments-là différents pour faire juste... Bon, je pense qu'il faudrait peut-être s'approcher d'un spécialiste et puis dire, ben voilà, j'aimerais faire ça avec tel type de plantation. Et puis après, on pourra le mettre sur les rails pour qu'il utilise les bons éléments pour développer ça correctement.
Les jardinières.
On va parler de haies d'arbustes en ce moment. C'est Carole et Nicolas qui ont agrandi leur jardin. Ils désirent y mettre une haie d'arbustes, mais ne savent pas exactement quels arbres choisir pour que ce soit joli et pour qu'ils aient à peu près tous la même taille. Est-ce que vous pouvez les aider, Fabrice ?
Alors, c'est assez difficile comme ça parce qu'on a tellement un choix énorme de plantes à disposition pour planter dans notre région que c'est le mieux, ce serait de consulter, je pense, un professionnel. Avec un petit bouquin, on pourrait regarder et puis montrer toutes les possibilités qu'on a. Ça dépend s'ils veulent une haie monospécifique, par exemple, tout du laurier. Mais d'après ce que je comprends, ils voudraient plutôt un mélange, un panachage de végétaux. Donc, avec un panachage de végétaux, on peut vraiment s'amuser au niveau du choix des époques de floraison. On peut commencer avec les premières fleurs maintenant, qui sont pour les arbustes. On a quelques arbustes qui sont en fleurs maintenant, pour aller jusqu'à la fin de l'été, avec le remplissage de ces périodes sans fleurs, avec des feuilles de coloris différents. Et puis après, ben justement, en prenant des plantes, avec des plantes un petit peu plus rondes, des plantes un peu plus colonnaires, de mettre beaucoup de variations dans les hauteurs, dans les profondeurs. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix devant nous. Donc le mieux, ce serait de regarder avec quelqu'un, de dire, ben voilà, on aimerait par exemple travailler dans des couleurs chaudes, d'utiliser du blanc, du rose, du rouge, des choses comme ça. Et puis après, on peut tourner avec les feuilles, on peut tourner avec les fleurs, en remplissant l'année le maximum de mois possible avec ces fleurs, combler les trous avec les feuilles colorées. Et puis là, il peut faire une très jolie haie.
Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voyait moins avant, étant donné qu'il y avait plus les haies toutes vertes, là, hein, toutes carrées.
Alors, c'est toujours des effets de mode, parce qu'on a eu, des monospécifiques avec le fameux thuya, on a eu du laurier, après on a eu des indigènes, maintenant on a des haies vives aussi qui sont très intéressantes. Et puis, c'est vrai qu'on a beaucoup de choix à ce niveau-là.
Les jardinières.
Deuxième partie des jardinières, Sophie et moi, on est toujours en compagnie de Fabrice, paysagiste à Porrentruy, pour répondre à toutes vos questions. Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez.
Et vos questions, vous pouvez les poser en composant le 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Mais on lit également vos SMS et vos formulaires. Pour rappel, il vous suffit d'indiquer le mot jardin au début de votre SMS, laisser un espace, puis taper votre question et vous envoyez le tout au 939. Et je rappelle que vous avez encore jusqu'à 8 heures pour poser toutes ces questions qui taraudent votre esprit.
Et comme Marie l'a fait par SMS, elle nous pose une question d'actualité. Elle nous demande quel arbuste planter dans un endroit très exposé au vent violent. Oui, on a eu pas mal de vent hein, quand même ces derniers temps. Fabrice Rondet.
C'est juste. Alors, par rapport à ça, de nouveau, on a tout ce choix de plantes qu'on parlait avant à disposition qui nous permet de satisfaire cette personne sans trop de difficultés. Moi, je pense qu'il faut juste qu'elle donne peut-être des directives un petit peu plus précises par rapport à la hauteur, la largeur de la haie qu'elle souhaite avoir. Si elle voudrait avoir une intimité aussi hivernale ou que dans la belle saison, en mettant par exemple des persistants ou des caducs dedans. Et après, par rapport à tout ça, toutes les plantes qu'on a qui sont ligneuses, si on a un système racinaire qui est correct, qu'on met un petit peu d'engrais, qu'on les taille régulièrement, auront un bon développement qui permettront de passer ces caps avec ces grands vents sans souci. Moi, j'ai pas eu un seul problème ces dernières années avec des plantes qui sont déracinées, justement de type arbrisseau, avec un entretien minime ou régulier. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Il faut que l'enracinement soit correct et la plante tiendra le choc.
Mais... Oui, allez-y Sophie.
Non, je voulais poser la question suivante, donc allez-y.
Non, allez-y seulement, je vais poser la question avant. Allez, politesse, politesse.
Alors, c'est Sylvie de Neuchâtel qui nous a écrit, du coup elle a acheté de la lavande papillon en pot. Il y a une semaine, elle a suivi toutes les instructions pour les mettre dans ses balconnières situées plein sud. Seulement, 3 jours plus tard, elle les a retrouvées toutes flétries. Qu'est-ce qu'elle peut faire ou ne plus faire peut-être?
Alors moi je pense qu'il ne faudrait peut-être pas faire, c'est débuter une plantation extérieure maintenant si rapidement. On a tout simplement des plantes qui ont été élevées, je pense, sans couche, sans serre, et on a des plantes donc, qui sont en milieu très favorable et qu'on a placées tout d'un coup à l'extérieur, avec dans la journée, certes, il y a quelques semaines en arrière, des températures assez intéressantes, mais par contre, la nuit, on descendait, voire même on franchissait la barre en dessous de zéro. Donc du coup, une plante qui sort de serre, qui a été maintenue dans de très bonnes conditions, pour la placer dans des situations où c'est qu'il fait bon la journée et froid la nuit, la plante elle ne peut qu'encaisser un choc au niveau des températures, ce qui provoque ce flétrissement. Donc attendons un petit peu pour prendre des plantes de situations comme ça pour les placer dehors. Il faudrait attendre la mi-mai, je pense.
Donc là, vous proposez de les laisser dans le garage ou bien de les laisser dans un endroit où il fait un peu plus
chaud. Juste d'attendre un petit peu. Ouais. C'est mieux, elle attend un petit peu, elle achète sa plante, elle la place directement dehors et la fait rebelle. Après, si c'est une plante qui a été acclimatée, qui a passé déjà des saisons dehors, il n'y aura pas de problème pour elle. Mais le fait de passer de serre à l'extérieur, c'est compliqué.
Effectivement. On va faire une petite pause musicale. Sophie, il y a plusieurs moyens pour ceux qui nous écoutent ce matin, qui se sont levés tôt, il est 7h40, pour poser les questions à Fabrice Rondet.
Vous pouvez le faire par écrit, soit avec le formulaire que vous trouvez sur notre site internet ou alors par SMS au 939, toujours en indiquant le mot jardin avant votre question. Et sinon, eh bien, le moyen le plus direct, 0901 70 20 20, pour 36 centimes la minute.
7h, 8h, les jardinières.
Et on vient de recevoir un SMS donc au 939 de Magali qui aimerait savoir quand et comment tailler un hibiscus, Fabrice.
Alors, quand ? Ben, c'est maintenant, il n'y a pas de problème. On peut tailler dès que les feuilles sont tombées jusqu'à fin mars, avril. Et puis après, comment ? Ça, c'est un peu compliqué d'expliquer toujours quand on n'est pas devant une plante et qu'on peut montrer les branches. Alors, ce qu'il faut faire, c'est déjà enlever dans un premier temps toutes les branches qui rentrent à l'intérieur de la plante, qui vont se croiser, qui vont gêner donc le développement de l'arbuste. Après, il faut enlever tout ce qui est trop petit, trop chétif, qui ne donnera rien, qui prendra l'énergie aux bonnes branches. Il faut revenir en arrière sur les jeunes pousses de l'année pour permettre après à la plante de se développer sur l'extérieur de cette dernière. Donc il faut permettre comme image que l'air et le soleil pénètrent au cœur de la plante pour que toute la plante soit bien inondée et bien aérée. Je ne sais pas si c'est assez clair pour cette dame, mais c'est vraiment ça qu'il faut chercher à faire.
Tendre, ça semble assez précis. Hein,
ouais, tendre à ouvrir la plante en fait.
Voilà, donc Magali, essayez de faire une taille comme ça et puis vous pouvez nous tenir au courant de l'évolution de votre hibiscus. On a également reçu une question de Catherine qui déménage et elle voudrait emmener 4 de ses rosiers. Comment est-ce qu'elle peut s'y prendre, Fabrice Rondet ?
Alors, il faudrait faire ça très rapidement parce que maintenant, on a certains arbustes qui ont tendance à vouloir démarrer. Les rosiers en feront partie s'ils n'ont pas déjà commencé à bourgeonner. J'en ai vu quelques-uns déjà commencer à gonfler et ouvrir. Donc maintenant, ce qu'il faut faire très attention, c'est que le rosier, il a un enracinement qui est un petit peu particulier, où c'est qu'on n'a pas une racine assez courte, pleine de radicelles. C'est tout l'inverse, c'est qu'on a une longue racine. Il faut vraiment aller chercher un maximum de cette longue racine, pas la couper. Et puis après, l'idéal, ce serait de pouvoir prélever en fait une motte. Peut-être de la mettre dans un sac de coco ou un petit panier bien serré, bien fermé pour que cette motte ne se casse pas. Si la motte se casse, ça va freiner le démarrage, voire peut-être même porter préjudice à son démarrage. Et après, le mettre en place, mettre une terre fine, bien arrosée pour que ça colmate tout, et puis tailler la partie aérienne assez sévère pour que le maximum d'énergie de réserve qu'a fait cette plante puisse repartir sur le peu de ramure qu'il y a pour pas qu'elle s'épuise. Et puis après, surveiller les premières semaines de démarrage du printemps.
Et puis, justement, en parlant de déménagement, c'est vrai que ça peut être compliqué de transporter ces plantes, surtout de les réadapter au nouvel environnement. Est-ce qu'il y a des plantes externes, extérieures, qui ne peuvent pas se déplacer, tout simplement, qui doivent rester à la même place et parce que sinon, ben voilà, elle résiste pas au changement, peut-être au changement de lumière, etc.
Alors après, on a la difficulté, si c'est des plantes de petite taille à moyenne taille, on peut imaginer de le faire, mais il faut prendre justement attention à la période qu'on le fait, il faut prendre attention aussi à la motte qu'on va prélever pour assurer la rapidité de reprise. Après, quand on va commencer de travailler avec des plantes qui ont un système racinaire pivotant, là c'est très compliqué parce qu'ils ont peu de racines, une racine qui descend profondément. Donc là, c'est plus compliqué de prélever une motte et puis de la transplanter et puis d'assurer sa reprise. Et après, quand il s'agit de plantes de très grande taille, là, il faut engager des moyens qui sont des fois beaucoup plus lourds, donc pas possible. Donc à un moment donné, si on prend compte du temps de travail, si on prend compte de l'attention qu'il faut mettre à la reprise, des moyens qu'il faut engager, La chance qu'on a de voir l'opération réussir, on a peut-être meilleur temps de racheter directement un arbuste qui coûterait bien moins cher, puis on est sûr du résultat, puis après être un peu patient pour avoir un arbuste qui atteigne le développement de l'autre.
Merci Fabrice Rondet, je rappelle que vous êtes paysagiste à Porrentruy, vous êtes avec nous encore pendant une petite dizaine de minutes. On va faire une pause musicale, appelez-nous 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute ou alors un petit SMS au 939 en n'oubliant pas d'indiquer le mot jardin tout au début et puis de bien détailler votre question.
7h, 8h, les jardinières.
On vient de recevoir un téléphone de Jean de Bonfol qui nous pose une question en réponse à la semaine passée. On avait parlé des vers blancs dans le gazon et on avait un peu parlé de ce qu'il fallait faire pour refaire un beau gazon. Mais sa question, c'est est-ce qu'il faut mettre un produit pour pas que ces vers reviennent ? Parce que ben, c'est bien beau de les éliminer une fois, mais pour être sûr qu'ils ne reviennent pas. Encore une fois, est-ce qu'il y a un produit à utiliser ? Si oui, quand l'utiliser ? On attend vos réponses, Fabrice.
Alors effectivement, on a des produits qu'on peut utiliser, il y a plusieurs méthodologies de travail, mais ce qu'il faudrait faire avant de mettre en place ces produits ou ces méthodologies, il faudrait attendre qu'on sorte un petit peu de cette période froide, parce que là, ils sont descendus en profondeur, donc ils sont en hibernation, et puis on n'aura pas un effet direct sur eux. Donc il faudrait attendre qu'on remonte en température, ils vont remonter en surface, et à ce moment-là, on peut parler de traitement de ces bestioles, et puis après de préparer notre terrain et les rendre gazonner tout de suite derrière. Alors avec ces produits, la complication un petit peu pour l'efficacité, il faudra aller voir soit passer pour l'amateur chez quelqu'un, un distributeur de la région qui pourra lui proposer quelques solutions, mais après il y a des produits qu'il n'aura pas accès parce que justement il n'est pas professionnel. Donc avec ça, ben, soit il fait une démarche lui-même, soit il fait une démarche à travers quelqu'un, et puis les solutions, ils devraient les trouver. Mais attendons peut-être encore un petit peu que la terre se réchauffe pour réengazonner tout de suite derrière.
Et bien voilà, donc si jamais vous avez encore, qui vous nous avez appelé quelques questions, n'hésitez pas à recomposer le 0901 70 20 20. Comme vous qui nous écoutez ce matin, il est 7h53, vous avez encore 3 minutes pour nous appeler ou alors pour nous envoyer un SMS au 939. Et justement, Sophie, on va parler d'éco avec Myriam qui aimerait embellir son jardin. Elle se demande ce qu'elle peut planter autour d'un arbuste saule-crevette. Mais c'est quoi déjà un arbuste saule-crevette, Fabrice ?
Alors ça, c'est une jolie petite plante qui peut être conduite avec une ramification très près du sol, ou alors on a une tige et puis une ramification qui va se porter un petit peu plus haut. Donc on a une plante qui est panachée, donc on a quelque chose déjà qui est très décoratif parce qu'on n'a pas un feuillage vert mais un feuillage panaché. Et après, avec ça, ben, on peut tout imaginer. On peut utiliser des plantes fleuries, comme la lavande, des graminées. On peut utiliser peut-être des érables rouges. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est prendre peut-être de la couleur pour mettre en valeur ce feuillage panaché, pour le faire ressortir en jouant avec les contrastes. Moi, j'utiliserais volontiers peut-être de la lavande, de l'érable du Japon en feuillage rouge, quelque chose comme ça, puis ce saule-crevette, et puis jouer un petit peu avec l'espace, style un petit peu jardin assez épuré comme on a maintenant, ça pourrait être assez sympa.
Quand est-ce qu'on peut s'y prendre pour faire ça ? Justement, là, aujourd'hui, ils annoncent beau, évidemment, mais demain, ça recommence, hein, les températures vont baisser. Est-ce que vous conseillez de s'y mettre déjà maintenant ou alors d'attendre un peu ?
Non, les plantations, on peut démarrer maintenant. On a des terrains qui ne sont pas gelés. On n'a plus de chute de neige vraiment pour nous embêter, pour couvrir en grande épaisseur. On a plutôt, je pense, des giboulées maintenant. Je parle peut-être un petit peu hâtivement, mais d'après ce qu'on a ces dernières années, on pourrait dire que maintenant, on peut commencer les plantations sans être embêté. Ouais, on a des sols qui sont faciles à travailler. Donc, on a la pluie qui est là pour tout de suite profiter, remettre la terre en place autour des mottes des racines. Donc, dès que la chaleur après va arriver, la plante qui s'est installée gentiment avec ses pluies va pouvoir se réveiller et redémarrer très facilement.
On va passer à la question finale habituelle, hein, Fabrice Rondet. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On est le 16 mars, donc on l'a dit, hein, le temps est un peu capricieux ces temps. Qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment au jardin ?
Alors au jardin, maintenant, ce qu'on peut faire, ben, c'est continuer les tailles, continuer l'aménagement des massifs, repenser des plantations. On peut commencer aussi de penser à son jardin potager en faisant tous les petits semis. On fait nos semis nous-mêmes en faisant tous nos petits semis d'intérieur pour après être prêt pour les mettre à l'extérieur, arriver le mois de mai.
Eh bien, merci beaucoup Fabrice Rondet. Les cloches sonnent bientôt 8h, c'est-à-dire qu'elles sonnent bientôt la fin de notre émission du côté du jardin radiophonique pour que nous puissions nous rendre dans notre véritable jardin pour appliquer les conseils de ce matin. Merci donc à vous Fabrice Rondet, vous qui êtes paysagiste à Port-en-Truite, vous êtes levé tôt hein, ce matin. Bon, ça n'a pas été trop difficile, hein, vous m'avez dit.
Très bien.
Ça va. Bon, vous avez partagé avec nous vos connaissances, on vous souhaite une belle journée, à très bientôt.
Bonne journée, bon week-end, au revoir.
Les jardinières, eh bien, elles reviennent évidemment samedi prochain pour une nouvelle édition. Nous serons accompagnés de Jean-Pierre Ribaud et si vous avez déjà des questions en tête auxquelles vous souhaiteriez que Jean-Pierre réponde, vous pouvez le faire dès à présent par SMS au 939, toujours en indiquant le mot jardin, ou grâce au formulaire. Et bien sûr, elles seront traitées en priorité samedi prochain dès 7h. Bon week-end et à la semaine prochaine.
Et bon week-end.
7h, 8h, les jardinières.